Le texte que je vais vous lire ce matin se trouve dans Genèse, chapitre 39, et versets 7 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit : Viens au lit avec moi. Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même ? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Un de ces jours-là, comme Joseph arriva à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Viens donc au lit avec moi. » Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. Venez voir, cet Hébreu que mon mari nous a amené a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Pour résumer, Joseph, qui a été vendu par ses frères, est devenu esclave. Il a ensuite été remarqué par un Égyptien nommé Potiphar. Cet homme lui a tout donné, ses biens, son aide, mais surtout sa confiance. Mais le jour où il refusa les avances de sa femme, Joseph se retrouva en prison. Dans ce texte, nous pouvons constater à quel point les choses sont compliquées pour Joseph. Face à la proposition de cette femme, deux choix s'offraient à lui. S'affirmer en tant qu'esclave et monter dans la hiérarchie, ou rester fidèle à son maître qui lui a tout donné. Malgré la détermination de cette femme, Joseph n'a pas succombé à la tentation. Dans les versets, on peut voir à quel point cette situation a duré et à quel point Joseph a toujours su dire non. Cela nous invite à toujours garder le cap et à tenir bon. J'ai choisi l'histoire de Joseph car elle m'a beaucoup touchée. Car en tant que jeune, dire non face à une proposition à la fois plaisante et malsaine paraît impossible. On a toujours tendance à vouloir les choses trop vite, à vouloir brûler les étapes sans se soucier des conséquences. Alors, voici la question qui se pose aujourd'hui, chers frères et sœurs. Si vous êtes beau, riche, intelligent et charmant, est-ce que vous arrivez toujours à dire non comme Joseph ? Alors, il est bien beau d'oser dire non, mais jusque quand ? Pour vous illustrer ceci, je vais utiliser Samson dans le livre de Jude, Juges, chapitre 16, versets 6 à 21. Thank you. t'en prie, dis-moi d'où vient ta force extraordinaire. Avec quoi faudrait-il te lier pour se rendre maître de toi? Samson lui répondit, si on me liait avec sept cordes d'arc neuf qui ne sont pas encore sèches, je deviendrais aussi faible qu'un homme ordinaire. Les chefs philistins apportèrent à Dalila sept cordes d'arc neuf pas encore sèches, et elles s'en servit pour ligoter Samson. Elle avait caché des gens à l'intérieur de la maison. Soudain, elle cria, « Samson, les Philistiens viennent t'attaquer. » Samson rompit les cordes comme si c'était un cordon rongé par le feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi en me racontant des mensonges. Apprends-moi maintenant comment on pourrait te lier. » Si on me liait avec des cordes neuves qui n'ont pas encore servi, je deviendrais aussi faible qu'un homme ordinaire, lui répondit-il. Dalila se procura alors des cordes neuves qu'elle utilisa pour ligoter Samson, puis elle cria, Samson, les Philistiens viennent t'attaquer. Des gens étaient de nouveau cachés à l'intérieur de la maison. Cependant, Samson rompit les cordes qui lui liaient les bras comme si c'était du fil. Dalila dit à Samson, tu t'es encore moqué de moi en racontant des mensonges. Cette fois, apprends-moi vraiment comment on pourrait te lier. Samson lui répondit, si tu tissais les sept tresses de ma tête sur la chaîne d'un métier à tisser, et si tu les fixais avec la chaîne du métier, je deviendrais aussi faible qu'un homme ordinaire. Dalila endormit Samson, tissa les sept tresses de sa tête sur la chaîne d'un métier à tisser, et les fixa à l'aide de la chaîne. Puis elle cria, Samson, les Philistiens viennent t'attaquer. Samson se réveilla et arracha la cheville, le métier à tisser et la chaîne. Dalila lui dit, « Comment peux-tu affirmer que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà trois fois que tu te moques de moi et que tu refuses de m'apprendre d'où provient ta force extraordinaire. » Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches, au point que, fatigué à en mourir, il perdit patience et lui révéla son secret. « Mes cheveux n'ont jamais été coupés, lui dit-il, car j'ai été consacré à Dieu dès avant ma naissance. Si on me les coupait, je perdrais ma force et deviendrais aussi faible qu'un homme ordinaire. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret, et elle fit dire au chef philistin, « Cette fois-ci, vous pouvez venir, car Samson m'a révélé son secret. » Il se rendit chez elle avec l'argent qu'il lui avait promis. Dalila endormit Samson sur ses genoux et appela un homme qui lui coupa ses sept tresses. Elle commença ainsi à le réduire en son pouvoir, car sa force le quitta. Alors elle cria, « Samson, les Philistiens viennent t'attaquer. » Il se réveilla et pensa qu'il s'en sortirait et se libérerait comme les autres fois, car il ne savait pas que le Seigneur lui avait retiré son aide. Mais les Philistins s'emparèrent de lui et lui crèvèrent les yeux. Ils l'amenèrent à Gaza, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'obligèrent à moudre le blé dans la prison. Pour résumer, Samson repoussait les jugements de Dalila, sa compagne, qui lui demandait d'où venait sa force extraordinaire. Il lui mentit à plusieurs reprises, mais finit par céder à la quatrième. Ce que nous pouvons observer dans ce texte, c'est l'évolution du non au oui. En effet, au début, Samson arrive à dire non en montant sur l'origine de sa force. Mais à la quatrième fois, cette femme s'empare de lui, comme il est dit au verset 15, « Comment peux-tu affirmer que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ?» Dès lors, le cœur de Samson est pris et il révéla à Dalila son secret sans tarder. En d'autres mots, il finit par céder au oui. Pour moi, ce qui expliquerait ce passage du non au oui, et qu'elle excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes choses, au point que fatigué à en mourir, il perdit patience, comme il est dit au verset 16. Il aurait bien voulu refuser, mais il en était déjà plus capable. Et cela, nous pouvons l'expliquer par la peur d'entrer en conflit avec elle, la peur d'être jugé ou critiqué par elle, ou encore la peur d'être rejeté qui est liée à notre besoin d'être aimé et accepté. Et à la fin, il perdit son alliance avec le Seigneur. L'une des leçons que nous pouvons tirer de ce texte est qu'en répondant oui aux demandes d'autrui, nous pouvons négliger et même oublier ce qui est important pour nous. Ou encore, pouvoir oser dire non est une façon de se protéger et ne pas se laisser entraîner dans le piège de la manipulation. Mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, en avait averti. Saül, mon père, a l'intention de te faire mourir, dit-il. Sois sur tes gardes demain matin. Trouve-toi une bonne cachette et reste ici. Je sortirai avec mon père et je l'accompagnerai dans le champ, où tu te seras caché. Je lui parlerai de toi, je verrai comment il réagit et je lui ferai savoir. Jonathan vanta à son père les qualités de David. Puis il ajouta, « Toi, le roi, tu ne dois pas commettre une faute à l'égard de ton serviteur David. » Il n'en a pas commis à ton égard. Au contraire, il t'a toujours agi pour ton profit. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin Goliath. Et ce jour-là, le Seigneur a accordé une grande victoire à Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi donc te rendrais-tu coupable de verser du sang d'un innocent en faisant mourir David sans motif? Saül se laissa convaincre par les propos de Jonathan et déclara, par le Seigneur vivant, je jure qu'il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan alla chercher David, lui rapporta toute la conversation et le ramena vers Saül. David reprit son service auprès du roi comme par le passé. Pour résumer, le roi Saül appela son fils Jonathan et ses serviteurs pour leur parler de son projet. Alors, il informa David que son père veut le tuer. Alors, Jonathan retourna vers son père pour le convaincre de ne pas tuer David. Et David revint à son service. Le roi Saül était sous l'effet de la jalousie et voulait tuer David. Il soupçonnait David de le détrôner pour devenir roi d'Israël, parce que le peuple chantait à la gloire de David. Il a tué des dizaines de milliers, que Saül a tué des milliers. Saül se sentait humilié dans cette chambre. Jonathan décida de garder son amitié avec David, car il avait l'assurance que David se battrait pour lui, comme il avait vaincu Goliath. Alors il aima comme lui. La leçon à retenir dans cette histoire, c'est de savoir dire non, même à sa famille, pour être fidèle et loyal à celui qui a rendu service au prix de sa vie. Conclusion, jusqu'où pourrions-nous être fidèles et loyaux à notre ami face à la pression de notre entourage? Que notre oui soit un oui et que notre non soit un vrai non.
Je vous invite à lire Ruth, chapitre 1, verset 8 à 18-7. Naomi leur dit, rentrez chez vous maintenant, chacune dans leur maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver
trouver le bonheur dans la maison d'un mari. Puis elle embrassa ses deux belles filles pour prendre congé. Mais celles-ci pleurèrent abondamment. Et lui dit, non, nous t'accompagnons auprès de ton père. Noémie reprit, entrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec nous? Ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous. Laissez-moi. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y en a encore l'espoir en moi, cette nuit même, je serai un homme qui me donnera des fils. Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi? Commencez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non. C'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. Les deux belles filles pleurèrent leur plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé. Mais Ruth refusa de la quitter. Noémie dit, regarde ta belle-sœur est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle et retourne chez toi. Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterrée. Que le Seigneur m'inflige le plus terrible des punitions, qui n'est pas la mort, celle qui me sépare de toi. En résumé, Ruth a refusé les consignes de Naomi, comme quoi il fallait revenir dans leur famille d'origine. Mais Ruth répondit, ton Dieu est mon Dieu, et ton peuple est mon peuple, j'irai où tu iras. Ruth préféra rester avec Naomi par fidélité et loyauté. Elle a dit non à sa patrie et sa religion pour épouser la religion de sa belle-mère. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est la valeur du oui à Dieu, mais aussi impliquer un non à son passé.
Vous avez compris? Pour cette année, nous avons choisi les personnages bibliques pour faire découvrir aux enfants les beautés du témoignage qui existe dans la Bible, oser dire non. Oui, quelques personnages emblématiques dans l'Ancien Testament ont montré tout au long de leur vie qu'on peut dire non à tout ce qui pourrait être attrayant, mais qui finalement n'est jamais gratuit. Car derrière, il existe toujours un attrape-nigo. Comme vous venez de l'entendre tout à l'heure, à l'instar de Joseph, fils de Jacob, il aurait pu saisir une occasion en or de pouvoir prendre sa revanche, pas sur ses frères, mais sur la vie, en acceptant la proposition de la femme de Putiphar. Qui pourrait dire non à une offre pareille? En lui offrant la gloire, la satisfaction sur un plateau en or. Mais ce jeune homme a préféré de prendre le risque en sachant d'attirer la foudre et la toute-puissance de son maître au lieu de vendre son intégrité. Mais parfois, des hommes de Dieu tombent dans les pièges de la vie, à l'exemple de Samson tout à l'heure. Il a pu dire non plusieurs fois à toutes les demandes de Dalila, mais la ruse et le semblant de douceur caché dans la voix de Dalila est le mensonge, comme le mensonge du diable, qui a bien fini à lui attirer dans la fosse. Comment oublier aussi l'histoire de Daniel, même si on ne l'a pas évoqué, et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, jusqu'au bout, face à la menace de se faire, on va dire, jeter dans la fournaise, malgré la sanction qui allait tomber sur eux, ils ont pu tenir tête en disant « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main. » Au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils n'étaient pas impressionnés face à la menace et aux intimidations. Ils ne se sont pas agenouillés devant l'effigie de l'empereur. Rien qu'avec ces exemples que nos jeunes viennent de nous citer, la question qui se pose à nous aujourd'hui, Qui aujourd'hui ne s'agenouille pas devant le lingot d'or? Qui aujourd'hui ne s'agenouille pas devant le pouvoir et va même vendre son âme au diable à ceux qui prétendent détenir le pouvoir et les richesses de ce monde? Soyons à contre-courant, même si cela fait rire à notre entourage. Existe-t-il encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui n'ont pas prêté allégeance à maman? Avec Jésus et avec les jeunes, lève-toi et ose dire non. Amen. Thank you.